Chez Apple, nous pensons que nos collaborateurs sont une ressource inestimable. J'adore.
Ils sont plutôt poétiques hein, dans leur manière d'écrire. On m'avait dit au core training, donc la formation initiale de 3 semaines qui précède l'ouverture d'un store, on m'avait dit que ce credo avait été mis au point par des employés Apple, par des salariés Apple. Et que du coup, c'est intéressant qu'ils utilisent ce terme parce que bon, moi, j'avoue que même si elle est inestimable, une ressource reste une ressource, quoi. Et on parle d'être humain et ça me gêne toujours un peu qu'on l'assimile à une ressource en soi.
Ressources humaines. C'est un terme qui m'a toujours choqué, moi. On gère les gens comme des flux, on gère comme un cheptel, on emmène le bétail à l'abattoir.
Ouais, c'est ça. Je sais pas si quelque chose qui serait intéressant d'observer, tu vois, c'est comment le vocabulaire évolue d'ici 5-10 ans. On parle beaucoup aujourd'hui de bienveillance, y a des happiness officers, il y a ce genre de choses dans le monde du travail. Donc le travail devient une fête, n'est-ce pas? Et à voir si le terme ressources humaines ne sera pas complètement réécrit, s'il n'est pas déjà un peu réécrit, ou si dans les fêtes, tu vois, enfin, c'est quand même, ça traduit quand même une certaine vision de la personne humaine, quoi, bien sûr.
On n'a plus des collègues, on a des collaborateurs.
Oh, Seigneur.
On n'a plus des salariés, on a des membres.
Ouais.
Et Apple, malgré tout, ce credo qui était censé décrire sur la page de garde du credo, hein, on t'explique, une expérience enrichissante.
J'aime beaucoup ça, une expérience enrichissante. On dirait, tu sais, un film intéressant. tu vois ce que je veux dire?
Il y a ça, mais il y a aussi cette idée que tu vas t'accomplir au travail.
Ouais.
Et la première version du credo, donc, qui est ce petit livret avec une espèce de programme de comment on voit le travail et comment on travaille chez Apple, cette première version était vraiment, parlait vraiment de l'accomplissement au travail. Et ce qui est intéressant, c'est que la deuxième version qui a été éditée quand Angela Ahrens a repris Apple Retail, qui est affreusement plus courte.
Extrêmement courte.
On mettra les deux textes sur le site du podcast. Elle parle de valeurs. Alors pour le coup, on n'est plus sur une expérience enrichissante, mais on est sur enrichir la vie. et c'est ça, hein, c'est notre mission est d'enrichir des vies, aider les rêveurs à devenir acteurs, encourager la passion et le potentiel de chacun, afin que notre travail reflète le sens de notre vie. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est très très court. À la fin, c'est ça, hein, nous ne sommes rien sans nos collaborateurs, encore ce mot. Ils se reconnaissent sans se connaître, ils brillent mais restent dans l'ombre, ils œuvrent pour rendre le monde meilleur. Le sens de leur existence est d'enrichir des vies. Ça, c'est le credo d'Angela Ahrens qui a disparu et il y a aujourd'hui officiellement plus de credo chez Apple Retail. Mm. Et quand on prend le credo originel, qui fait 8 pages, sur la 7e page, nous utilisons Net Promoter pour analyser l'expérience des employés et des clients et identifier les services à améliorer. On n'est pas du tout dans les bisounours, on est là pour changer le monde. Non, c'est vraiment... En 8 pages, on vous explique comment on conçoit le travail chez Apple, comment vous allez travailler, comment on interagit avec le client pour qu'il ait une bonne expérience, une bonne image d'Apple, mais aussi qu'on vende des produits parce qu'à la fin, on vend des produits. Et c'est marrant ce glissement en l'espace de 10 ans. On passe de « voici les règles au travail ». Et moi, j'ai retrouvé donc chez Apple Corp, on n'avait pas un credo, mais on avait juste une petite carte double face sur comment on vend des produits. Mmh. Et c'était vraiment ça, hein, c'est comment on vend des produits et comment on le fait avec le sourire et comment on le fait de manière qui ne soit pas agressive et qui donne aux clients envie de revenir et puis surtout qui fasse en sorte que ce soit le client qui, quelque part, se vende lui-même le produit. Alors que le credo Angela Ahrens et cette idée qui reste aujourd'hui, hein, on est dans la bienveillance, les bisounours, on va sauver le monde, on a des valeurs et finalement on ne te parle pas de vendre des ordinateurs quoi, ou des téléphones.
Alors l'aspect positif de ça, c'est que j'ai le message très clair qu'il y avait durant le core training, c'était que les appareils se vendent tout seuls, enfin, les gens faisaient encore la queue à l'époque pour les nouveaux iPhones, et tu n'avais donc pas d'objectif de vente, à l'inverse de beaucoup de retail.
C'est vrai. Et du coup, tu n'avais pas de commission.
Exact.
Donc, tu n'avais qu'un fixe.
Ouais. C'est ça, je pense, qui concrétisait pas mal le côté enrichissant de l'expérience Apple. Parce que souvent les gens qui postulaient chez Apple pour être vendeur là-bas, je dis vendeur exprès parce que spécialiste m'insupporte un peu comme terme aussi, c'est, on appelle ça spécialiste, mais bon, de quoi, de qui, tais-toi quoi. Les vendeurs là-bas viennent de différents profils, mais globalement ils aiment tous le contact humain, globalement ils ont tous une affinité avec soit la créativité, des choses comme ça, enfin c'est... Il y a des atomes crochus, quoi. Et puis surtout fan d'Apple en général. En tout cas, au début, c'était le cas. Et le fait de ne pas avoir de commission, vu que c'est des profils un peu, entre guillemets, rêveurs, je caricature volontairement, mais je me compte là-dedans, enlever un poids, quand même. Permettait vraiment de profiter du fait d'être dans un milieu où tu es voilà, t'es dans un truc que tu aimes bien, tu vends des trucs que tu aimes bien, tu parles avec des gens qui aiment bien ces trucs-là aussi. C'est plutôt cool comme expérience, en fait. C'est un peu un camp de vacances, quoi. Ça enlève une sacrée pression.
Oui, et puis les premiers profils, c'était... Alors certes, parmi les cadres, c'était souvent des cadres qui étaient issus du Sérail. Il me semble que le premier store leader du Louvre, il avait été recruté chez Gap ou quelque chose comme ça.
Oui, ouais, c'était très, très mode, effectivement. Ouais.
Alors que les spécialistes, c'était des gens qui faisaient de la musique, qui faisaient du Final Cut, qui faisaient de la programmation. Enfin, c'était vraiment voilà, des gens qui utilisaient le Mac et qui vendaient pas seulement une machine, mais une expérience. Et c'était vraiment très important, ça.
Oui, tout à fait, c'est ça. On avait toujours insisté pendant la formation initiale sur vous êtes le visage d'Apple. Donc, il fallait mettre en valeur, mettre en relief ce côté, justement, bah, notre expérience à nous, permettra de vendre, enfin voilà, c'est une sorte d'apostolat, quoi. On est convaincu par le produit initial.
Et c'était pareil nous avec Apple on Campus, où l'idée c'était d'être sur, de recruter des étudiants qui devenaient, alors que moi je suis rentré, c'était déjà plus Apple France, mais c'était une agence qui facturait ensuite Apple France pour des raisons fiscales, mais où de fait on travaillait pour Apple France, et où c'était voilà... Ce sont des étudiants qui vont vendre à des étudiants. Et donc, on connaît tes besoins, on connaît tes usages parce qu'on a les mêmes. Et je vais te montrer comment moi j'utilise mon Mac pour te donner envie d'acheter un Mac à ton tour. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui était extraordinairement important pour Apple. C'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vends du Mac ou de l'iPhone comme tu vendrais des t-shirts chez Zara.
Bah, c'est ça, la première zone express qui avait été créée, je me souviens, pour je crois que c'était le deuxième Noël consécutif au store, donc on devait être en 2011-2012. Le concept de zone express est arrivé à ce moment-là, quelques temps après l'ouverture du premier store parisien, enfin même de France d'ailleurs, celui du Louvre, qui depuis a fermé parce que petit ange parti trop tôt, et surtout à l'air infesté de particules fines. Passons. Et ça avait créé un petit scandale quand même. Les salariés étaient vraiment choqués par le fait qu'on ait une zone de vente express, qu'il n'y ait pas cette relation, que les gens puissent arriver, se servir et partir. Et évidemment, c'est quelque chose quand même qui est resté, et parce que bah, le fait est que c'est la cohue à Noël, tous les Apple Store, quoi. Mais tu vois, on voit ce glissement, enfin, cette logique, elle est dans le credo aussi. Je veux dire, la première version venait des salariés, ensuite la deuxième est venue pas des salariés, et la troisième, la troisième est disparue en fait. C'est aussi simple que ça. C'est la voix au chapitre n'est plus... On n'a jamais été... En tant que membre d'Apple Retail, tu n'es jamais vraiment tout à fait Apple. C'est évident. Je veux dire, c'est comme chez Apple Care, tu vois, j'imagine. Tu restes quand même attaché à la marque. Et il y a quand même, évidemment, des passerelles. Mais les évolutions de retail vers corporate sont extrêmement réduites. Elles se comptent vraiment...
Ah, sur les doigts d'une main,
ouais. Ah ouais, c'est très, 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 très restreint. Et puis, enfin, le milieu corporate est aussi lui-même très particulier. En France, enfin, j'avais des cas d'un salarié en particulier qui avait fui le corporate France pour venir travailler au magasin d'opéra parce que l'atmosphère était tellement invivable, en fait. C'était des gens horribles. C'était rien à voir avec Apple. C'était...
Pour me souvenir un peu de comment ça se passait à l'intérieur à l'époque, c'était une situation très compliquée. En plus, il y a eu... Des sombres affaires de détournement, de réduction et d'argent piqué dans la caisse et de gens qui étaient obligés de consommer de la cocaïne pour tenir le rythme. Bon, c'était un peu compliqué à l'époque. C'était pas une atmosphère très respirable. Mais ce que je trouve fou, c'est ce glissement, hein, quand tu relis le premier credo. Nous faisons au mieux pour inspirer nos clients à chacune de leurs visites. Donc avec cette idée que le client ne va pas forcément acheter à la première, mais il va revenir. Pour que nos magasins soient un endroit convivial où il fait bon acheter, apprendre, créer, obtenir de l'aide et revenir. C'est pas seulement un espace de vente.
C'est la version québécoise, c'était où il fait bon magasiner, c'était rigolo. Je fais une parenthèse là-dessus.
C'est
Ouais.
beau magasiner, cela dit.
Mais
Ça dit
j'aime
très bien ce que
beaucoup
ça veut dire.
magasiner, c'est
Oui.
très. Ça ajoute une. Tu sais, cette poésie de l'intimité, tu vois du petit.
Mais oui.
Tu vois ce que je veux dire?
Et
C'est.
ils ont le mot dépanneur pour épicier, que je
Oh!
trouve vachement plus adapté.
Mais bien sûr que c'est un
Ces gens
dépanneur.
sont beaucoup plus créatifs que nous.
Créatif et concret.
Oui. Mais et tu vois, donc il y a cette idée, hein, le store c'est pas seulement une surface de vente. Et quand donc là ces dernières semaines il y a des petites tensions au store Pardieu qui vient de fêter ses 10 ans, ce qui nous rajeunit pas puisque j'étais à l'inauguration. Et bon. Et donc il y a donc c'est une situation un peu complexe parce qu'il y a eu un grand programme de rénovation du centre commercial qui est relativement bien tombé puisqu'il y a eu les confinements entre-temps. Apple qui avait un peu poussé pour certains aspects de la rénovation en imaginant déménager, notamment Apple qui voulait avoir une fenêtre pour pouvoir voir sur la rue et aller vers un store de nouvelle génération, ce qui s'est pas fait. Et donc on a une des rares boutiques de centre commercial avec l'ancien modèle tout en acier, des colonnes en plein milieu du magasin, alors que c'est la boutique dans le plus grand centre commercial de centre urbain en Europe continentale. Plus d'un million de personnes qui chaque année passent par cette boutique.
C'est vraiment considérable.
Et dans la lettre que les salariés envoient à leur direction pour se plaindre du fait qu'on va non seulement pas déménager et agrandir et passer sur un store de nouvelle génération avec un bel outil de travail, mais qu'on va en plus amputer la boutique de la moitié de sa surface. Le temps de la fin des travaux et on va pas résoudre certains problèmes qui sont là depuis 10 ans hein, sur notamment la gestion des stocks, les stocks qui sont loin de la boutique et qui sont exigus et où il y a souvent des chariots dans les couloirs, enfin c'est un bordel monstre et parfois pour un simple adaptateur t'attends un quart d'heure et il cite le credo alors qu'officiellement le credo n'existe plus et il cite cette phrase donc du credo, le deuxième credo, le credo d'Angela Arendt. Nous redéfinissons les attentes pour nous-mêmes puis pour le reste du monde parce que nous sommes un peu fous, parce que assez bien n'est pas assez, parce que nos actes nous définissent. Nous, 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 nous. Le premier credo, c'était il faut que nous fassions des choses parce que la boutique, c'est spécifique, c'est pas seulement une boutique. Et parce que nous, ce qu'on veut, c'est que le client vienne. Et dans le deuxième credo, c'est nous, 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 nos valeurs, nos valeurs, nos valeurs, nos valeurs.
C'est ça que je trouve vraiment intéressant et significatif. C'est que exactement comme c'est du Johnny Hive en fait. On est passé de quelque chose de relativement humain et concret en fait, des choses qui sortent des tripes, tu vois, à une abstraction. Et qui ensuite est devenu rien. C'est-à-dire que dans le premier credo, on avait des choses, on se conforme au Apple Step of Service, les 3P, les trucs, enfin, des choses comme ça qu'on pourra détailler après si les auditeurs le demandent. Et c'est, on cite des programmes spécifiques, on parle du Genius Bar, des One-to-One, on parle des événements, ce genre de choses. C'est vraiment très concret, c'est une carte.
Et on te parle de rapport au client.
Exact, ouais, tout à
C'est-à-dire,
fait.
tous les paragraphes commencent par nous, mais c'est nous par rapport au client.
C'est ça. Et comment, en fait, comment on fait une expérience enrichissante? Ça répond à cette question-là, en fait. C'est une expérience enrichissante sur le titre, c'est comment on le fait concrètement. Et point par point, c'est le détail de ce plan-là, en fait. Ça répond à cette question.
Et la dernière phrase, c'est nous respectons et observons à la lettre les directives d'Apple en matière de confidentialité et de marque, parce que évidemment.
Parce que, évidemment. Et ici, un vague sentiment de culpabilité inonde. Mais je ne céderai pas, je ne céderai pas. Ok. Sur la deuxième version, donc celle de Arendt, qui est, comme tu dis, déjà beaucoup plus courte, on a résumé ça à des points essentiels, enfin en tout cas essentiels, qui étaient considérés essentiels par l'architecte de ce credo-là. Et on a dépouillé toute forme de choses concrètes, en fait. C'est des concepts, c'est même plus que ça, comment on appellerait ça?
Ah, c'est des espèces d'idéaux, et on ne
C'est
te parle pas
ça.
du client.
C'est des mantras, en fait. C'est des mantras. Et je pense que la finalité de ça, ultime, c'était la disparition du credo. C'est logique, en fait. Parce que, quelque part, je ne sais pas comment c'est passé, comment ça s'est glissé, mais c'est devenu le credo de base, qui venait du bas, est devenu quelque chose du haut. des élites et a disparu, s'est volatilisé comme ça.
Le credo d'Arendt, tu peux le résumer, hein, parce qu'en fait, il n'y a que 5 ou 6 paragraphes. Notre mission est d'enrichir des vies. Nous donnons plus que nous ne prenons. Nos différences nous rendent plus forts. Nous redéfinissons les attentes. Nous trouvons le courage d'essayer et échouer. Nous ne sommes rien sans nos collaborateurs, c'est-à-dire nous, Apple. Jamais on ne te parle du client, jamais on ne te parle du rapport au client, et jamais on ne t'explique comment le client peut changer les pratiques, non seulement de vente, mais de l'entreprise. Alors que le premier credo, il y a certes une première partie sur nos collaborateurs, déjà ce mot, mais la deuxième partie, c'est notre clientèle.
Oui, et ce n'est pas aussi aspirationnel. Ce n'est pas des choses... En fait, le credo de Arendt, c'est extrêmement faible parce que ce sont des valeurs qui sont citées comme ça, dont on ne cite aucun potentiel concret. Alors, j'avoue que je ne sais pas si c'était quelque chose qui était développé. Tu vois, s'il y avait des ateliers sur le credo, peut-être en interne, qui disaient bah, concrètement qu'est-ce que ça veut dire ça, nanana. J'en suis pas sûr. Et ça devient quelque chose. Enfin, c'est cryptique en fait. Tu développes une valeur comme ça. Déjà le fait que tu aies besoin de l'énoncer est presque invalidant pour cette valeur. Ensuite, le fait de l'énoncer en fait quelque chose pour quelqu'un qui est concrètement en train de vendre des choses à des clients de peu actionnable. Il n'y a pas vraiment de point d'appui là-dessus, donc c'est vide, c'est creux. Et donc c'est normal que le credo de Arendt s'est disparu. Je ne pense pas que le premier credo aurait disparu du jour au lendemain. Il a fallu la version d'Arendt pour qu'il disparaisse.
Ouais. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est le rapport physique au credo. Nous, notre petite carte qu'on avait avec Apple on Campus, qui était juste une carte plastifiée de double face, qui était à peu près au format A5 ou même un peu plus grand, l'idée, c'était pas de l'avoir sur toi. L'idée, c'était de l'avoir chez toi et de t'y référer, notamment quand on faisait les reporting et qu'on se rendait compte qu'il y avait certaines interactions qui s'étaient mal passées, on revenait à cette double carte. Et on essayait de refaire la grille, de reprendre la grille qu'il y avait sur cette carte. Qu'est-ce que c'est qu'une interaction commerciale? Qu'est-ce que c'est que l'écoute active? Qu'est-ce que c'est que la présentation d'une solution? Comment on gère les objections? Ça, c'est quatre grands points qu'il y a sur cette carte. Et on refaisait le film. Le credo, c'était quelque chose que vous aviez sur vous.
Ouais,
dans le badge.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Donc ça fait 8 pages, mais ça se replie en accordéon et vous l'aviez presque contre votre cœur. C'est quand même assez symbolique.
Ah, très littéralement, oui.
Et le credo de Arendt, c'est un pass wallet, donc passbook à l'époque, que tu as sur ton téléphone.
Ouais.
Et moi, ce qui m'amuse au plus haut point, ce qui me fait sourire, il y a une note à la fin de la note, donc une espèce de note de bas de page, de la note de bas de page, de la note de bas de page. En accédant au credo en dehors de vos heures de travail ou du réseau Apple, vous reconnaissez et acceptez que votre consultation du credo est volontaire et s'effectue à des fins sans lien avec les responsabilités de votre poste. Donc moi, on me demandait de ne pas avoir le credo sur moi, la petite carte, et de ne pas trop, m'y référer et de ne pas trop psychoter. Vous l'aviez dans votre badge, mais une fois que le badge est posé, vous ne l'avez plus. Là, c'est non seulement tu l'as sur ton téléphone, mais on part du principe que tu vas le consulter sur ton temps libre.
Oui, parce que tu n'as pas le droit d'avoir ton téléphone sur la zone de travail.
Oui,
C'est merveilleux, c'est merveilleux. Et... Un petit clin d'œil encore, c'est que si tu choisis de l'envoyer ce credo, donc en utilisant l'icône partagée, il est identifié comme carte cadeau. Peut-être que c'est un signe, je ne sais pas. Mais oui, enfin, voilà, je pense que ça illustre parfaitement le glissement qu'il y a eu. Et je crois qu'on peut retrouver c'est vraiment fascinant, dans l'évolution du credo et sa disparition in fine, on peut voir beaucoup d'Apple en fait, c'est l'histoire d'Apple.
Oui.
C'est... par ses magasins, enfin par ses rapports aux clients physiques dans les magasins, on peut retracer ça et remonter ça jusqu'aux produits, jusqu'aux décisions stratégiques.
Et oui, quelque part, les Apple Store, alors c'était des très très belles boutiques par rapport aux autres boutiques de l'époque, mais quand tu les vois aujourd'hui, c'est vrai qu'elles ont quand même mal vieilli.
Elles ont pris un coup de vieux.
Mais ouais. L'Apple Store, c'était un endroit où tu allais chercher une ambiance et tu allais chercher des gens.
Et le Wi-Fi.
Moi j'aimais. Et le Wi-Fi. Non, mais ça, c'est toujours été important, le Wi-Fi.
Très important.
Mais si tu veux, moi j'aimais bien aller à l'Apple Store du Louvre, même quand j'ai commencé à travailler chez Mac Génération et que j'étais identifié comme journaliste chez Mac Génération, donc j'avais pas forcément la même relation avec les salariés. Ils savaient très bien qui j'étais et moi, il n'y avait pas de doute. Hein, ils m'avaient vu dès l'ouverture presse, avant même que la boutique n'ouvre.
Ouais.
Donc il n'y avait juste pas de doute. Donc j'avais pas la même expérience qu'un client normal, mais j'aimais bien y aller parce que tu pouvais passer 10 minutes avec des geeks comme toi, quoi. Et tu repartais avec une carte cadeau iTunes ou tu repartais parfois avec un iPhone ou un Mac à 3000 balles.
C'est arrivé, je l'ai vu.
Mais tu venais pour les gens. Aujourd'hui, les boutiques sont belles. Les boutiques se suffisent à elles-mêmes. Tu pourrais enlever tous les salariés dans la boutique et tu viendrais quand même parce que tu vis une expérience architecturale.
C'est même plus... Je vais aller plus loin que toi encore, je pense. C'est que moi, actuellement, quand je vais dans un magasin Apple, j'y vais effectivement pour la boutique.
Ouais.
Et c'est limite relou. Alors après, il y a mon contexte aussi de personne, bon, déjà ancien salarié, et puis je connais un peu les produits et tout, mais je n'aime pas trop être abordé en fait dans un magasin Apple. Je préférerais qu'on me laisse tranquille, tu vois. J'ai envie de voir les produits dans un bel endroit et j'ai pas besoin de voir des gens en fait. Je sais pas si c'est le cas pour tout le monde.
Mais où tu finis par choisir ta boutique.
Oui, tout à fait.
Tu vois, si j'habitais encore à Paris, ça me viendrait pas l'idée d'aller à Opéra. Opéra qui est bruyant comme un aéroport, à tel point que j'ai les rapports du comité d'hygiène et de santé et qu'il n'y a rien, quoi. Cette boutique devrait être fermée. Si on suivait la loi, elle devrait être fermée. Je veux dire, on est largement au-dessus des 90, des 87 décibels. C'est dangereux pour la santé des salariés, quoi. Les Champs-Élysées, elle est magnifique cette boutique, mais il y a un côté. Putain, tu te sens tout petit dans un immeuble, quoi. T'as presque. Tu te demandes presque ce que tu fous là, quoi.
C'est ça, elle a vraiment un problème. La seule qu'il faut qu'on vienne actuellement à Paris, c'est Saint-Germain. Et encore.
Saint-Germain, c'est agréable. Il y a un côté. Surtout qu'il y a un moment où tu sais pas vraiment si t'es à l'intérieur ou à l'extérieur, alors que pourtant c'est de l'éclairage artificiel. C'est assez étrange.
Oui, c'est. Oui. L'immersion est pas mal faite, ouais.
Et elle est calme. Et souvent, quand j'y vais, il n'y a pas de musique.
Ah oui, oui. Oui, c'est vrai. Oui, c'est pour ça que je l'aime bien, en fait. C'est qu'elle est plus calme que les autres. Uh-huh. Elle est plus feutrée. Celle des Champs-Élysées est un peu inhumaine, en fait. Je pense qu'elle est beaucoup trop grande. Et je pense qu'Apple le sait parce que les espaces sont organisés n'importe comment. Tu as plusieurs répétitions du même endroit, parfois même sur le même étage. Ouais. Et les salles business ne servent absolument à rien. Enfin, c'est curieux. Je salue la prouesse architecturale. Enfin, l'idée est excellente, mais... Non, après, je pense que concrètement, ça s'incarne mal. Ça vit mal le passage au concret.
Et tu vois, c'est quand même... je trouve que ça, c'est révélateur, mais dans la lettre qu'envoient les salariés de la boutique Pardieu à leur direction, donc ils disent bien hein, qu'en 10 ans, donc il y a 5 store leaders, 2 market leaders, 1 market director et le senior director qui sont succédés. Donc tu vois déjà le phénomène d'attrition sur 10 ans. Et ce qui est marrant, c'est qu'il conclut sur « Nous sommes très fiers de nos récentes ouvertures à Via del Corso à Rome et à l'Apple Tower Theatre à LA. » Et c'est vraiment, on ne te parle plus des gens, on te parle des boutiques. Elles sont belles. Hein. De tels monuments sont des vitrines pour Apple. Ce n'est plus les gens, la ressource, comme on disait tout à l'heure, qui est importante. Non, c'est le monument, c'est l'expérience que tu vas vivre physiquement dans un espace qui a une échelle suprahumaine parce que même le store d'Aix c'est un hall de gare quoi. c'est intéressant hein. Et on te parle de la monumentalité de l'Apple Store alors qu'on commençait sur on en a ras-le-bol quoi. La même chose que j'avais entendu en 2012 quand j'avais annoncé 6 mois avant qu'elle arrive la grève dans les Apple Store. Pour des raisons toutes bêtes, hein. On veut des fontaines à eau, on veut une climatisation qui fonctionne au Louvre et qui ne nous empoisonne pas.
Ça aurait été bien,
on veut des tickets restaurants pour manger le midi. C'était des trucs très humains, quoi. Tu vois, on parlait de l'air, on parlait de la bouffe, on parlait de la chaleur, on parlait des tripes, quoi.
Ouais, c'est ça, c'était autre chose que le wifi électricité, quoi. En fait, je pense qu'ils ont peut-être oublié le passage. Enfin, je pense qu'ils ont oublié le fait qu'il y avait des êtres humains qui étaient entre les ordinateurs et eux.
Oui, mais c'est marrant, ça a été même complètement intégré. Par les équipes, par les salariés eux-mêmes.
Oui, parce que je pense que c'est une manière de penser contagieuse. Il y a... Enfin, plutôt malsaine aussi, mais bon, ça c'est évident. Et trop abstrait. Je pense que c'est dans la même démarche, on a le retrait du mot store dans Apple Store.
Oui.
Dans ces échecs les plus cinglants, enfin Apple c'est que ça, c'est trop dans l'abstraction, quoi. La souris qui se recharge par le bas, c'est un peu idiot, tu vois, ce genre de choses.
J'avais écrit un papier là-dessus sur la manière qu'Apple a parfois d'ignorer la corporealité.
Ouais. Alors qu'à l'inverse, pour l'accessibilité, ils sont pas trop mal.
Mais
c'est
ça le
paradoxe.
qui est fou.
Oui.
Mais que parfois ils ont tendance à nous penser comme des. Enfin, tu sais, on parlait de la bicyclette de l'esprit il y a quelques semaines. Et parfois, t'es tellement à penser que c'est la bicyclette de l'esprit que tu penses que tes utilisateurs, c'est juste des purs esprits, quoi.
C'est ça.
Mais enfin, il y a aussi. Avoir des bords tranchants sur les MacBook Pro juste sous les paumes.
Non, mais
c'est embêtant, quoi.
Franchement.
Au hasard.
Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Mais ça devient problématique quand effectivement des personnes humaines sont prises dans le feu, quoi.
Mais oui, là on parle d'un outil de travail, quoi. Parce que la boutique, c'est tu peux la penser comme outil de travail, quoi.
Oui, tout à fait, oui. Et Opéra est symptomatique, le Louvre était symptomatique aussi. Je ne sais pas pourquoi ils ont fermé le Louvre au final. Je suppose que c'est parce que avec l'ouverture des Champs-Élysées, il n'y avait plus trop
Il y avait ça, puis c'était impossible architecturellement de changer la clim et notamment de gérer les flux de manière à ne pas réinjecter la pollution dans la boutique.
Ouais, l'air venait des parkings, quoi. Donc c'était un peu gênant. Je me rappelle bien. Mais Opéra, pareil, Opéra n'a aucun sens. Et le problème d'Opéra sur les stocks est le même que Lyon. Les stocks sont super loin, les salariés risquent de se faire agresser chaque matin à chaque livraison, c'est honteux.
Tu peux te faire écraser quand tu es salarié
à
Opéra, le temps d'aller chercher une machine. Tu traverses la rue, c'est quand même.
Renverser, agresser, ce que tu veux, mais c'est pas normal, quoi. Mais c'est intégré d'une manière ou d'une autre. Je pense que c'est vraiment des gens de bonne volonté qui travaillent chez Apple. C'est des gens, globalement, même s'ils peuvent râler des fois, ils ont raison de le faire. C'est quand même des gens qui aiment énormément la marque, les produits et qui sont fiers de travailler pour ça. Mais ça en fait un peu des victimes des fois.
Et puis il y a... J'obsède peut-être sur ce courrier qu'ils ont envoyé parce qu'il y a... Ce courrier, il a aussi été écrit en sachant qu'il serait envoyé à Mac Génération et qu'on serait un plaisir de le relayer. Mais donc il y a aussi un peu de politique là-dedans. Et puis bon, on est en relation avec les syndicats et ça fait quand même, que ce soit moi ou Florian, ça fait à nous deux 10 ou 11 ans qu'on suit tout ça. Donc on a quand même des relations assez pointues avec non pas seulement des salariés, hein, mais aussi des market leaders et des store leaders, hein, parce que ça remonte très haut. Hein. Ces gens aiment parler. Mais ce que alors c'est peut-être moi qui surinterprète, mais je trouve je sais pas si je suis choqué, déçu, enfin j'en sais rien, mais ce projet de remodel, donc de rénovation de la boutique, n'est pas à la hauteur des équipes depuis ces longues années. Donc là on parle du salarié.
Ouais.
Deuxième phrase, l'investissement doit être à la hauteur des engagements d'Apple. C'est-à-dire l'investissement ne doit pas être à la hauteur des demandes des salariés, des demandes légitimes des salariés d'avoir un espace de travail convenable, une salle de pause. Même pas une salle de pause de bonne dimension, une salle de pause tout court. De pas être obligé de se marcher dessus dans un couloir où il y a aussi des produits pour aller quand ils vont chercher un accessoire. Non, c'est il faut remodeler cette boutique pour être à la hauteur des engagements d'Apple. C'est-à-dire, on a complètement intégré notre aliénation et on est là, on est déçu en fait qu'Apple soit pas à la hauteur d'elle-même.
C'est ce qui me gêne un peu dans ce courrier, j'avoue. C'est
Il y a une espèce de syndrome de Stockholm.
Exactement,
quoi,
ce que j'allais dire. Et c'est pour ça que je me demande, je ne sais pas qui l'a écrite, c'est le CIDRE, c'est les deux syndicats, c'est...
C'est signé Apple Pardieu, c'est signé de la boutique.
Bon, mon intuition, c'est qu'ils ont essayé de faire le plus large possible et le plus... en faisant le moins d'éclat, entre guillemets, possible. C'est-à-dire que le moins d'aspérité dans le discours est le plus facilement recevable par ce qu'ils interprètent être, l'état d'esprit de la direction.
Ouais.
Mais... je trouve que c'est pas une bonne idée. Je trouve que et ce qui me choquait un peu à l'époque, parce que j'ai aussi été représentant du personnel à Opéra, il fut quelques temps.
Social traître.
Mais oui. C'était une expérience intéressante, je ne le referai plus. Et c'est que justement les syndicats étaient un peu des poules mouillées, quoi. Et pourtant c'était des noms, même Sud, même CGT, ça semblait très faible en fait. C'est-à-dire que les combats sont réels, il y a des vraies choses à demander qui sont légitimes, et c'est un mec de droite qui te parle, quoi. C'était demandé de manière genre, tu vois, un peu genre plaintive et conne, ça donnait pas envie d'être écouté, et c'était des arguments très faibles. Je pense que la grève aurait dû se reproduire plusieurs fois. Enfin, je crois qu'il y a eu deux occurrences. en tout, mais enfin, que deux, c'est peu, quoi.
Moi, j'ai toujours aimé, enfin, du point de vue du journaliste, j'ai toujours aimé le pas de deux entre, d'un côté, ceux qu'on peut considérer comme contestataires, Sud, la CGT, beaucoup Sud, parce que Sud aimait beaucoup parler. C'est
Oui.
moins le cas depuis un certain temps. Et le CIDRE, qui est, donc c'est la CFTC, si ma mémoire est bonne, c'est donc un syndicat très réformiste, qui non seulement a longtemps refusé de nous parler, ou seulement en réponse à un mail, quoi, mais jamais nous envoyer un communiqué de presse ni rien. Alors que par ailleurs, ils communiquent publiquement auprès des employés, et toutes les informations sont sur leur blog, accessibles à tout le monde. Mais j'ai toujours aimé ce pas de deux parce qu'il y avait un côté. Non seulement les contestataires allaient pas très loin dans les demandes. Ah, on veut une augmentation égale à l'inflation. Super.
Voilà.
Et puis derrière, le CIDRE qui disait: Ah non, mais c'est déjà trop. Vraiment,
Oui.
vous allez trop loin. Il faut présenter des demandes acceptables.
C'est exactement ça. Et je trouve
On
ça m'avait.
a complètement intégré qu'on est face à une boîte américaine et qu'ils diront non, et donc on va pas en demander beaucoup parce que de toute. Mais c'est complètement con, je veux dire. Si tu sais qu'on va te dire non, demande le max.
Mais c'est ça, en fait, c'est ça que j'ai bien compris. Il y avait zéro ambition, mais au-delà de ça, il y avait un vrai problème de positionnement. C'était tout ce qui était demandé avec l'a priori que, bon, alors la direction dira non, donc on va présenter ça de manière à ce qu'ils disent le non le moins fort possible.
Ce qui est
C'était littéralement ça, en fait. Et un syndicat, enfin, on n'élit pas des gens pour ça, tu vois. Un syndicat, c'est censé quand même ruer un peu dans les brancards. Enfin, je sais pas si j'ai des images de caricature en tête, mais quand même. Et non, c'était vraiment décevant. À chaque fois, le parti était pris pour la direction. Je ne pense pas qu'il y ait des questions de besoin de ça. C'est juste une faiblesse d'esprit lamentable, quoi. Et je dis lamentable au sens littéral, c'est-à-dire dont on peut se lamenter. Je ne juge pas la valeur des gens. Mais c'était intéressant de voir l'intégration, enfin la soumission en fait, la soumission des syndicats.
Et pourtant, nous encourageons un dialogue ouvert avec nos collaborateurs et notre
Ah.
public afin d'échanger des idées qui nous permettront d'améliorer nos magasins, nos procédures et nos performances.
Ah oui, bien sûr, oui.